Le journal est présenté par Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Caroline, bonjour à toutes et à tous. Alors que le Premier ministre Jean Castex a de nouveau apporté ce matin son soutien à Gérald Darmanin, plusieurs rassemblements féministes sont annoncés aujourd'hui dans plusieurs villes de France en protestation à la nomination du ministre de l'Intérieur. Le ministre irlandais des Finances a lui été élu hier par ses pairs à la présidence de l'Eurogroupe, un poste clé en pleine négociation sur un plan massif de relance de l'économie de l'UE. Et puis nous irons en Allemagne, secoué par une mystérieuse affaire d'espionnage autour d'un employé de la fonction publique soupçonné d'avoir travaillé pendant des années pour le compte d'un service de renseignement égyptien. Quand le tout nouveau gouvernement de Jean Castex affronte sa première crise dans la rue mardi dernier, déjà 24 heures à peine après les nominations au ministère de l'Intérieur, d'une part de Gérald Darmanin, soupçonné de viol, et à la justice, d'autre part d'Éric Dupond-Moretti, lequel aura parfois cédé, sinon à l'outrance, du moins à la provocation, notamment en plein débat sur la création d'un délit d'outrage sexiste, les féministes ulcérées avaient mené plusieurs actions coup de poing pour dénoncer ce qu'elles nomment le remaniement de la honte. Et ce vendredi, leur colère devrait à nouveau se propager sur l'ensemble du territoire. Olivier Vogel, bonjour.
Bonjour.
Du Havre à Ajaccio et de Brest à Dijon, des rassemblements sont prévus, Olivier, partout en France.
Nous avons pris une claque, mais nous ne sommes loin d'être chaos. Sonné lundi soir après les nominations, les féministes du collectif Nous Toutes ont très rapidement remis les gants pour remonter sur le ring. Dès le lendemain mardi, elles ont affûté leur slogan « Vous vous torchez avec nos plaintes » et sorti leur pancarte et fumigène pour faire du bruit devant le ministère de l'Intérieur, puis devant l'église de la Madeleine. Cet après-midi, la colère prend de l'ampleur. Des rassemblements prévus un peu partout en France, car un ministre de l'Intérieur visé par une plainte pour viol et un garde des Sceaux réputé pour ses positions antiféministes, cela prouve une chose pour Caroline De Haas, la porte-parole du collectif Nous Toutes, c'est qu'au plus haut niveau de l'État, les violences sexistes et sexuelles ne sont pas un sujet.
Je pense qu'il y a un côté désintérêt total du sujet de la part d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire que la question des violences sexistes et sexuelles n'est même pas dans son périmètre en fait. Il ne comprend pas ce sujet, ça ne l'intéresse pas. En fait, il s'en fiche, il considère que c'est pas un problème. D'abord, il considère manifestement que nommer un homme visé par une enquête à la tête des services qui vont enquêter sur le ministre n'est pas un problème de conflit d'intérêt. Et il considère que le fait de mettre un anti-féministe à la tête du ministère qui doit traiter toutes les plaintes pour violences sexistes et sexuelles n'est pas un problème. Ça dit quelque chose des positions féministes d'Emmanuel Macron.
Le collectif Nous Toutes appelle à la mobilisation générale en fin d'après-midi. Une trentaine de rassemblements prévus partout en France. Des rassemblements sont même annoncés à Londres, Berlin, Bruxelles, Barcelone, Tel Aviv ou encore Sydney. À Paris, la manifestation doublée d'un happening est prévue à partir de 18h sur le parvis de l'Hôtel de Ville.
Merci Olivier Vogel. Et je précise que Jean Castex en déplacement ce matin à Dijon avec Gérald Darmanin, près d'un mois après les violences qui avaient ébranlé le quartier des Grésilles, a exprimé non seulement son soutien aux forces de sécurité, mais aussi renouveler sa totale confiance à son ministre de l'Intérieur. Et c'est encore dans ce contexte que Jacques Toubon a lui adressé un message que l'on qualifiera d'opportun après le remaniement dans une décision dédiée au nouveau ministre de l'Intérieur. Le défenseur des droits recommande des changements d'urgence dans la doctrine du maintien de l'ordre, notamment en interdisant les fameux LBD. Ou quand l'ancien ministre de Jacques Chirac, dont le mandat prend fin dans quelques jours seulement, semble vouloir faire entendre sa voix jusqu'au bout. Et puis c'est aussi un cadeau empoisonné donc pour Gérald Darmanin qui, lors de son premier discours comme ministre de l'Intérieur cette semaine, a assuré les forces de l'ordre de son soutien total et dispose désormais de 2 mois pour répondre à ce document consultatif. Après Airbus et Air France, c'est au tour d'ADP de tailler dans ses effectifs. Selon les informations du journal Le Monde, le gestionnaire d'aéroport pourrait supprimer 600 postes, soit 10% de ses effectifs pour, dit-il, adapter le modèle économique et social du groupe. 15 mois après l'incendie ayant ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris, le président Emmanuel Macron a finalement opté pour rebâtir le joyau gothique à l'identique et notamment sa flèche, sujet des plus épineux qui en avait, on s'en souvient, provoqué une querelle entre anciens et modernes. Exit donc le geste architectural contemporain envisagé un temps pour reconstruire l'édifice. Stupeur en Allemagne après que la police a indiqué hier avoir ouvert une enquête contre un espion présumé employé depuis plusieurs années par le service de presse de la chancelière et soupçonné d'avoir travaillé pour le compte d'un service de renseignement égyptien. Une affaire évidemment très embarrassante pour Angela Merkel. Les précisions de notre correspondant à Berlin, Ludovic Piétenu.
Cet Égyptien a travaillé pendant des années, non pas au plus près de la chancelière, mais auprès de l'homme qui lui est le plus proche, Stefan Seibert, chef du service de presse, l'homme en charge de la communication d'Angela Merkel depuis plus de 10 ans. Il est le porte-parole du gouvernement et ses services travaillent dans un bâtiment isolé de la chancellerie, à quelques centaines de mètres, un grand complexe qui, outre des dizaines de bureaux, offre une très grande salle de conférence où la presse du monde entier se masse lors des grands événements politiques. Jusqu'à son arrestation au mois de décembre, cet espion a eu accès aux activités, à l'agenda de la chancelière et de son gouvernement, mais apparemment pas grand-chose de plus. Il n'occupait pas un rang hiérarchique élevé, il ne faisait pas partie de la haute fonction publique. Mais depuis son bureau des accréditations, il occupait en revanche un poste idéal pour surveiller les journalistes installés à Berlin et partout en Allemagne, les plus critiques à l'égard du régime égyptien du président Al-Sisi, collecter des informations sur ses opposants, comme les frères musulmans, dont plus d'un millier a trouvé refuge en Allemagne.
C'est finalement le ministre irlandais des Finances, Pascal Donohoe, qui a été élu hier par ses pairs de la zone euro à la présidence de l'Eurogroupe. Son homologue espagnol, la social-démocrate Nadia Calviño, ancienne haute fonctionnaire de la Commission, rompue aux arcanes de la bulle bruxelloise, avait pourtant longtemps fait figure de favorite. Mais le retrait du candidat luxembourgeois aura finalement fait le jeu de l'irlandais de centre-droit, considéré comme un gestionnaire prudent. Et bien évidemment, le choix des argentiers européens n'est pas anodin, alors que les pays de l'UE s'efforcent de mettre en place un fonds commun pour payer les coûts de la pandémie. Et en l'occurrence, Pierre Benazet, eh bien, l'élection de l'Irlandais est une défaite pour la France et l'Allemagne.
La ministre espagnole des Finances, Nadia Calviño, était donnée favorite par certains, et ce surtout depuis que la France avait formellement déclaré son soutien hier matin à quelques heures du vote. Elle était présentée comme une fédéraliste européenne, favorable à une grande intégration de la zone euro, une forme de fédéralisation des finances publiques de l'UE. C'était donc en adéquation avec les préconisations franco-allemandes pour le plan de relance qui met en avant une mutualisation de la dette européenne. Nadia Calviño avait donc le soutien de ces deux pays, de la Finlande et d'une majorité de pays du Sud. Avec en outre l'Espagne et l'Italie, elle pouvait donc compter sur l'ensemble des poids lourds de la zone euro, un groupe qui représente désormais 86% de l'économie de l'UE depuis le départ du Royaume-Uni. Mais en réalité, Pascal Donohoe était au coude à coude avec elle, car il a pour lui l'écrasante majorité des pays du Nord, décrit ici comme une sorte de ligue hanséatique de la rigueur budgétaire. Pascal Donohoe à leur faveur, car il est justement défavorable à une fédéralisation européenne des finances publiques, comme le montre en particulier son opposition à l'harmonisation fiscale dans l'UE. Il se dit aussi favorable à un rapprochement avec les pays du Sud. Ceux-ci peuvent estimer qu'il a toute légitimité, puisque comme eux, l'Irlande a dû se soumettre, après la crise financière née en 2008, à un régime sévère imposé par le plan de soutien apporté par l'Union européenne. Sa présence à la tête de l'Eurogroupe façonnera l'application du futur plan de relance, dans un sens qui pourrait ne pas être celui de Berlin et de Paris.
La Serbie et son ancienne province méridionale du Kosovo doivent reprendre aujourd'hui le dialogue rompu il y a près de 18 mois avec un sommet encouragé par l'Union européenne afin de tenter de résoudre l'un des conflits territoriaux les plus compliqués d'Europe depuis la proclamation de son indépendance, c'était en 2008. Il demeure toujours impossible pour le Kosovo d'espérer une reconnaissance formelle des Nations Unies tant que la Serbie, soutenue par la Russie et la Chine, refusera d'admettre sa souveraineté. Toujours en Serbie, après 2 nuits consécutives de violents affrontements à Belgrade entre la police et des manifestants qui protestaient contre la réintroduction d'un confinement intégral durant le week-end, le gouvernement a finalement fait marche arrière. Le couvre-feu sera remplacé par d'autres restrictions. Interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes et horaires allégés pour les bars, magasins et autres commerces de la capitale. S'agissant toujours de la pandémie, la situation en Europe paraît en réalité aujourd'hui plutôt sous contrôle. Le virus continue à refluer, non parfois sans quelques résurgences. En France notamment, où la population respecterait de moins en moins les gestes barrières, les cas de Covid-19 repartent en légère hausse. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs la tenue d'événements en plein air. C'était le cas par exemple hier soir à Paris, où une cantine du 20e arrondissement organisait un banquet en pleine rue. Une manière en l'occurrence de recréer du lien social, mais tout en maintenant les bons gestes. C'est un reportage signé Cosima Mezidi Alem.
Un banquet dans les rues de Paris, c'était le Paris du food market. Cette cantine du 20e arrondissement a voulu marquer l'occasion pour le déconfinement. Tout le boulevard Belleville a été bloqué pour accueillir 250 mètres de terrasse. De 19 à 22 heures, ce sont 350 personnes qui ont mis les pieds sous la table pour déguster des menus entrée, plat, dessert. De chaque côté de la rue, 2 points d'entrée sont installés pour éviter les files d'attente. Pour Virginie Godard, fondatrice du Food Market et organisatrice de l'événement, ces règles permettent de créer un semblant de convivialité en pleine épidémie.
Ça peut sembler un peu inconscient de se dire 350 personnes au même endroit, mais il s'agit quand même d'un espace sur un boulevard entre deux métros. C'est-à-dire que là, les tables sont toutes espacées d'un mètre, on va jusqu'à l'autre côté, c'est gigantesque.
Pour l'occasion, 5 restaurants ont été conviés, tous issus du 11e arrondissement. Les restaurateurs qui ont subi la crise du Covid à différents niveaux, alors que certains n'ont pas du tout fait de chiffres, d'autres ont changé leur façon d'opérer. C'est le cas de Chloé Charles, cuisinière indépendante.
J'ai organisé un marché dans mon immeuble avec mes fournisseurs habituels. Du coup, je faisais livrer du poisson, des légumes. Donc c'est marrant parce que maintenant, ça paraît presque un peu long.
Assise à une table, Scarlett est avec ses amis. Malgré l'éventualité d'une deuxième vague de Covid, cette Parisienne n'est pas inquiète à l'idée de manger avec 350 personnes.
S'il y avait lieu de s'inquiéter, je pense que le gouvernement aurait repris des mesures à ce propos. Donc moi, je m'inquiète pas et je profite.
Pour d'autres clients, c'est une manière de profiter de la gastronomie parisienne qui a réussi à s'adapter à la crise, comme l'indique Alexis.
La restauration s'est vachement adaptée. Quand on voit l'éclosion de toutes ces terrasses un peu partout, ces terrasses un peu sauvages là, jusqu'au 30 septembre, l'offre devient nouvelle et je pense que oui, effectivement, ce genre d'initiative va se multiplier. Je trouve que c'est bien aussi pour les restaurateurs de sortir de leur zone de confort.
Maintenir du lien social tout en respectant les gestes barrières, tel est le nouveau pari des restaurateurs et des clients.
Une lueur d'espoir pour les quelques 200 000 marins actuellement coincés en mer depuis que de nombreux ports et frontières ont été fermés à la circulation lors d'un sommet à Londres hier. 12 pays se sont engagés à revoir leur législation et règlements pour ne plus faire obstacle aux relèves d'équipage. Alors on l'imagine, les solutions à mettre en œuvre sont complexes, d'autant qu'il faut aujourd'hui se presser, comme l'explique Christine Cabot-Veller, en charge des opérations de la CMA-CGM, la quatrième compagnie maritime mondiale, interrogée par Marie-Vie.
Pour relever des navigants, il faut trois choses. Il faut faire passer des marins par des frontières qui aujourd'hui sont fermées, dans le sens de ceux qui débarquent, mais aussi dans le sens de ceux qui embarquent. Il faut pouvoir faire arriver par avion, bien souvent, les navigants jusqu'au navire et faire partir par avion les navigants depuis le navire jusqu'à leur lieu de résidence. Et ça, vous imaginez bien qu'aujourd'hui, c'est très, très compliqué. Et puis, il faut des endroits où on peut faire les tests médicaux qui vont bien, parce que vous imaginez bien que nos navigants à bord, ils sont sous protocole de sécurité extrêmement strict pour qu'ils soient protégés à bord des navires. Et donc, il faut des lieux où on peut tester les navigants, où on peut s'assurer qu'entre le moment où on les a testés et le moment où ils vont embarquer, ils vont être évidemment sous quarantaine, en tout cas confinés. Ça sous-entend des solutions logistiques très concrètes. Donc tout ça, c'est pas facile à mettre en place. Ce qui est sûr, c'est que depuis quelques semaines, on voit s'ouvrir des options de faire des relèves dans des endroits dans le monde où on pouvait pas le faire avant. La seule crainte, c'est que s'il y a des recrudescences du virus ou de choses comme ça, les choses ne se referment à nouveau. Voilà. Donc il faut se dépêcher maintenant pour essayer de relever tous ceux qui peuvent l'être.
Outre-Atlantique, la progression toujours galopante de l'épidémie poursuit elle ses ravages et n'épargne plus les puissants. Quelques jours après que le président brésilien a révélé avoir été testé positif hier, c'était au tour de la présidente par intérim de la Bolivie d'annoncer qu'elle avait contracté le virus. Au même moment, au Venezuela, le numéro 2 du régime a lui aussi fait savoir qu'il avait été contaminé. Et puis les États-Unis ont battu hier un nouveau record du nombre de cas de contamination en une seule journée, plus de 65 500 et 1 millier de personnes ont succombé lors des dernières 24 heures. Enfin, toujours aux États-Unis, la haute cour américaine a reconnu hier comme une réserve indienne près de la moitié de l'Oklahoma, dont la deuxième ville la plus peuplée de l'État, Tulsa, un arrêt qui signe là l'une des victoires judiciaires les plus importantes pour les Amérindiens depuis des décennies. Justin Trudeau au cœur d'une énième enquête pour conflit d'intérêts, plus exactement la mère et le frère du Premier ministre canadien sont accusés d'avoir touché de l'argent pour des événements organisés par une association caritative qui se trouve être étroitement liée au Parti libéral. Enfin, le maire de Séoul, Park Hoon-soon, figure emblématique du Parti démocrate au pouvoir, avocat de l'égalité des sexes et sociale, longtemps considéré comme un candidat potentiel à la prochaine élection présidentielle. Se serait-il suicidé? Le corps sans vie de l'édile, âgé de 64 ans, a été retrouvé ce matin dans la montagne à la périphérie nord de Séoul, après avoir été accusé la veille de harcèlement sexuel par son ancienne secrétaire. On termine avec un mot de météo. Le temps va en partie se dégrader aujourd'hui avec l'arrivée d'une perturbation accompagnée de faibles pluies qui traversera toute la moitié nord du pays. De l'est du massif central au Jura et aux Alpes, là les orages seront plus fréquents. Le sud-est en revanche restera à l'écart et bénéficiera d'un temps relativement ensoleillé. Quant aux températures, elles afficheront entre 18 et 35 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Brice Garcia et à 18h, vous avez rendez-vous avec Benoît Bouscarel pour le prochain journal de la rédaction.